Alors ce matin, on commence une nouvelle série. Cette série-là s'appelle l'Évangile. En fait, on va étudier ensemble l'Épître aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, mais le mot qui résume le mieux toute la lettre de Paul aux Romains, c'est le mot « Évangile ». La lettre que Paul a écrite aux Romains a été écrite à des chrétiens, donc des gens qui avaient déjà compris l'Évangile. Ils connaissaient déjà l'Évangile, ils avaient saisi, je vais le dire comme ça, l'ABC de l'Évangile. Les rudiments de l'Évangile, ça allait, ils croyaient en Jésus-Christ, mais Paul avait sur son cœur d'aller voir cette église-là qu'il ne connaissait pas personnellement, c'est pas une église qu'il a établie lui-même, et il voulait aller leur annoncer encore l'Évangile. Parce que Paul savait très bien que l'Évangile n'est pas simplement le début du christianisme ou le début de la foi, c'est pas simplement la porte d'entrée dans la foi, c'est la foi à tous les jours, c'est en grandissant dans l'Évangile que je vais grandir en Jésus-Christ. Alors cette année, en 2015, est-ce que vous désirez, au cours de cette année, connaître davantage Dieu? Est-ce que vous désirez, en 2015, grandir dans l'Évangile et voir Christ être formé en vous de plus en plus? Moi, c'est mon désir. C'est ça ma prière, c'est toute ma prière pour ma vie personnelle en 2015. C'est Seigneur, transforme-moi davantage à l'image de ton Fils et je sais pertinemment que cela va se faire au fur et à mesure que je vais grandir dans l'Évangile, grandir dans ma compréhension de l'Évangile. On est à la bonne place ce matin pour grandir cette année et approfondir notre compréhension de l'Évangile. Donc, je vous lance un défi. On va passer les 12 prochaines semaines dans ces 16 chapitres. Et moi, le défi que je vous lance, c'est pas de lire en 12 semaines, 16 chapitres. Non, c'est de lire à chaque semaine l'Épître aux Romains, une fois par semaine. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de lire actuellement dans la Bible, ou si même vous avez une discipline de lecture biblique. Essayez de faire une petite place d'une heure ou deux dans votre semaine pour pouvoir passer à travers la lettre aux Romains. Vous pouvez faire ça en une heure et demie le dimanche après-midi, puis vous préparer pour la semaine suivante. Mais je vous lance ce défi-là. De lire chaque semaine l'Épître aux Romains au complet, les 16 chapitres, je vous assure que ça va changer votre vie. Je vous assure que ça va changer votre vie. Dieu va vous faire grandir à travers votre compréhension, votre appréciation de l'Évangile de Jésus-Christ à travers le livre qui est le summum. C'est la somme théologique de l'apôtre Paul qui était réputé pour être l'enseignant le plus complexe, mais le plus clair aussi, le plus riche de tous les apôtres qui enseignaient. Et c'est vraiment sa somme théologique où on a l'exposé le plus complet et le plus clair de l'Évangile de Jésus-Christ. Je vous lance ce défi-là. Je vous lance un autre défi aussi. Un petit peu plus demandant, celui-là. Moi, je vous lance le défi, pendant ces 12 semaines-là, de mémoriser un chapitre de la lettre aux Romains. Un chapitre au complet. Il y a un pasteur extraordinaire qui est parti en 2014 rejoindre le Seigneur qui s'appelait Robert Beauchamp. Robert Beauchamp avait mémorisé la lettre aux Éphésiens au complet. Moi, je l'ai vu dans une pastorale accompagnée par Gilles Paquin à la guitare nous réciter, sans livre dans ses mains, sans Bible dans ses mains, la lettre aux Éphésiens au complet. Et ce n'était pas une récitation mécanique. C'était Paul qui était en train de te raconter sa lettre. C'était vraiment extraordinaire. Personnellement, au début de ma vie chrétienne, un des premiers passages que j'ai mémorisé, c'est Romains 6. Romains 6 est un des premiers passages que j'ai mémorisé, le chapitre au complet. Ça a l'air étrange à dire, mais c'est beaucoup plus facile de mémoriser un chapitre que simplement 2-3 versets par-ci, par-là, parce que le cerveau mémorise beaucoup mieux dans un contexte que simplement de manière isolée. Alors, je vous lance le défi de choisir de mémoriser un chapitre de la lettre aux Romains. Et si vous avez le gars, si vous me faites signe, je vous invite à venir en avant pour nous le réciter d'ici la fin de la série. C'est bon, hein? Je serais curieux de voir si on va en avoir 16. Qui va prendre Romains 9? Qui va prendre Romains 11? On va aller dans un mot de prière puis on va écouter la parole de Dieu. Père éternel, merci pour ce merveilleux livre, Seigneur, qui a été inspiré par ton esprit. Tu accompagnais Paul avec une sagesse, une intelligence, une compréhension, une révélation vraiment de cette bonne nouvelle de Dieu. Je te prie, Seigneur, de nous accompagner au cours des 12 prochaines semaines. Nous voulons grandir dans l'Évangile de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, saisir Christ un peu plus par ta grâce, par l'œuvre de ton esprit avec ta parole, Seigneur. Je te prie, Père, pour ceux qui vont nous accompagner dans cette série, qui ce matin ne saisissent pas peut-être entièrement l'Évangile, peut-être qu'ils n'ont pas saisi que Jésus-Christ est véritablement Seigneur, véritablement Sauveur. Accorde-leur cette grâce seulement, Seigneur, de devenir chrétien, de croire en toi, Jésus, au cours des 12 prochaines semaines. Ce serait vraiment une joie extraordinaire pour nous, Seigneur, de pouvoir assister à quelques nouvelles naissances spirituelles au cours des 12 prochaines semaines. Je te le demande, Seigneur, viens faire ce beau miracle. Viens bénir ces gens qui ont besoin de te connaître, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu.
Le passage de ce matin est tiré de l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, versets 1 à 17, édition Louis II. Romains au chapitre 1, versets 1 à 17. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Merci Camille. Le mot évangile, vous nous entendez répéter ça 10 à 20 fois à chaque semaine. C'est un mot qui vient du grec. Alors, on a intitulé le premier exposé de cette série-là à partir du mot grec, Evangelion. C'est une translittération, tout simplement. On a pris le mot grec puis on l'a francisé. Le mot évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et notre société, notre époque a besoin de cette bonne nouvelle-là. Notre temps, les gens autour de nous ont besoin de cette bonne nouvelle-là. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu nous a donné la plus grande des bonnes nouvelles. C'est son Fils Jésus-Christ qui s'offre à tous les hommes. Et comme chrétien, il y a de quoi être fier, être honoré de pouvoir parler de ce Fils-là. C'est vraiment intéressant. Regardez avec moi dans Romains 1 ce que Paul écrit au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. On est habitué, les chrétiens, de parler de l'évangile de Jésus-Christ. Mais Paul n'introduit pas comme ça ici. Il dit au contraire, c'est une bonne nouvelle qui vient de Dieu. C'est Dieu qui annonce une bonne nouvelle aux hommes. Le sous-titre de la série, c'est « Dieu ne nous a pas oubliés. Le Créateur ne nous a pas oubliés. » Nous vivons à une époque et dans une société qui a, de bien des manières, généralement oublié Dieu. Une société qui a été construite en bonne partie sur des fondements chrétiens, une vision du monde, de l'être humain chrétien. Mais aujourd'hui, les sociologues vont parler d'ère post-moderne, non d'ère post-chrétien même. Et donc, on vit dans une société qui a oublié cette racine-là fondamentale de son système moral, de ses valeurs, de son système judiciaire, de sa vision du bien commun même, où on veut partager, prendre soin les uns des autres, tant dans un système plus capitaliste ou dans un système plus socialiste, le fondement demeure le même, c'est cette vision du monde chrétienne qui est là. Et notre société a perdu ça de vue. Mais Dieu, le Créateur, ne nous a pas oubliés. Et il a une bonne nouvelle. Et il a une bonne nouvelle. C'est l'Évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu. Et cette bonne nouvelle-là, c'est son fils. Cette bonne nouvelle-là, c'est son fils. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. Des fois, les gens vont écouter des enseignements, vont lire des livres chrétiens, vont jaser avec des chrétiens, puis ils arrivent à une étape où ils disent, « Regarde, tu peux t'arrêter avec Jésus? Tu peux me parler d'autre chose que Jésus? » Oui, mais c'est parce que si je te parle de plein d'autres choses que Jésus, en parlant de spiritualité, tu ne saisis pas que tu es un être profondément religieux. Tu vas comprendre du christianisme que c'est un système de loi dans lequel tu dois entrer et performer. Tu vas retenir simplement, « Ah, OK, tu m'as dit ça, c'est bien, ça, c'est mal. » Non, je t'ai dit plus que ça, tu es incapable de faire le bien. C'est pour ça que je reviens toujours à Jésus-Christ. Regardez bien ce que Paul dit ici. Verset 3. Alors, verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul ne nous apprend rien de nouveau. Ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament à travers les prophètes. Mais cet évangile, cette bonne nouvelle de Dieu, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. La bonne nouvelle de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, on pourrait dire, c'est l'Évangile. Et donc, si dans ton cheminement, dans ta quête de Dieu, dans ton désir de comprendre Dieu, tu te dis, il y a Dieu et je peux le trouver de différentes manières, tant et aussi longtemps que tu ne saisiras pas qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il est venu accomplir, dans toute sa beauté, sa splendeur, et on va voir ça ensemble un petit peu ce matin, peut-être que tu vas connaître des choses sur Dieu, mais jamais tu ne connaîtras la bonne nouvelle de Dieu pour toi. Parce que la bonne nouvelle de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est une personne. C'est une personne qui est à la fois homme et Dieu. À la fois homme et Dieu. Ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Donc, il est né avec un corps humain. La bonne nouvelle de Dieu, c'est un corps, c'est une personne qui est intervenue dans l'histoire bien réelle. C'est pas un concept, c'est pas un être conceptuel, c'est pas une idée qu'on se fait de Dieu, c'est une personne qui est née en chair. Et tout ce que Paul fait ici lorsqu'il dit qu'il est né selon la postérité de David, il fait référence aux promesses dans l'Ancien Testament qu'une descendance du roi David viendrait, un héritier du trône de David viendrait, régnerait éternellement. Jésus, lorsqu'il est né, était justement cet accomplissement-là. Et donc cette personne-là, l'Évangile, c'est une personne, c'est un être humain qui est né physiquement, qui est donc fils d'homme et fils de Dieu en même temps. L'Évangile, c'est Jésus-Christ, homme et Dieu, Dieu le Fils. Les deux à la fois. Si tu dois saisir la bonne nouvelle de Dieu pour toi, tu dois connaître cette personne-là. Lorsque je discute avec des amis musulmans, puis qu'à un certain moment donné dans la conversation, ils commencent à me dépeindre Jésus, non pas comme Dieu le Fils. Je sais qu'ils ont peut-être une certaine compréhension de Jésus. Je sais qu'ils ont peut-être une certaine compréhension de Dieu. Mais dès ce moment-là, je sais qu'ils ne connaissent pas la bonne nouvelle de Dieu pour eux. Quand je parle avec des amis qui me disent « Oui, j'aime les valeurs chrétiennes, j'aime ce que je trouve dans le christianisme, il y a des belles choses pour construire une société, mais bon, à part de ça, moi, ça, je m'arrête là. » Tu es encore en surface. Tu es encore en surface du trésor. Tu as juste vu le coffre, tu n'as pas ouvert le coffre encore. Tu t'es pas rendu à la bonne nouvelle. Parce que tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. Jésus, pour moi, c'était un philosophe. C'était quelqu'un qui m'enseignait des bonnes valeurs, qui me donne des principes moraux. Si c'est ça que tu connais de Jésus, tu es encore en surface. Tu n'as pas connu la bonne nouvelle. Tu t'es pas rendu encore à la bonne nouvelle de Dieu. En fait, j'oserais te dire que tu t'enlignes pour être le plus malheureux des hommes. Parce que connaître de Jésus seulement le bien qu'il te dit de faire et le mal qu'il te dit de ne pas faire, c'est terrible à porter. Tu t'engages dans une voie de religiosité terrible à supporter. Parce que ce n'est pas ça son message. Ça, c'est ce qui conduit à son message. C'est seulement ce qui conduit à son message. Fils d'homme, fils de Dieu. Né homme, ressuscité tout-puissant. Là, j'aimerais ça, les chrétiens, ceux qui sont familiers avec les Écritures, je voudrais vous amener un petit peu plus loin dans le passage ici, comprendre une autre dimension de la personne de Jésus que vous voyez peut-être pas. Naturellement, on sait que Jésus est pas devenu Dieu le Fils. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque Jésus est venu sur la terre, il était déjà Dieu le Fils. On parle de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. C'est ça que la Bible nous enseigne. Dieu le Fils est venu sur la terre. Mais regardez bien qu'est-ce qui est écrit ici dans le passage. C'est super important pour bien saisir l'Évangile. Il concerne son Fils au verset 3, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il était déjà Dieu le Fils. Il était déjà Fils de Dieu. Mais l'apôtre Paul me dit ici qu'au moment de sa résurrection, d'une manière nouvelle, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par une œuvre de l'Esprit de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts. Constamment, lorsque Jésus révèle qui il est à travers l'Évangile de Jean, on voit sa puissance, on voit sa toute-puissance, on voit qu'il a quitté son Père, qu'il était déjà avec son Père, on voit qu'il était déjà Dieu le Fils, troisième personne de la Trinité. C'est tout très, très clair dans l'Évangile de Jean, c'est super clair. Mais ici, il y a quelque chose que Paul nous dit qui a changé fondamentalement au jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et là, je vais vous rappeler, si vous êtes familier un peu avec les évangiles, je vais vous rappeler certains passages. À la fin de l'évangile selon Matthieu, Jésus va déclarer quelque chose. Matthieu 28, je vous lis brièvement, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché de ses disciples, leur parlant ainsi, voici ce qu'il leur dit. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. À la fin d'ici, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu le Fils était déjà la gloire de son Père. Dieu le Fils était déjà dans la gloire de Dieu. Dieu le Fils était déjà tout puissant avec Dieu. Mais Dieu l'a envoyé accomplir une mission sur la terre. Il lui a dit, « T'es avec moi de toute éternité, tu vas maintenant devenir faible. Tu vas devenir un homme, tu vas être éprouvé, tu vas être tenté comme le reste des hommes. Le Yob va jouer dans ta tête. » C'est ce qu'il a fait. et le summum, le moment le plus éprouvant, le plus difficile dans toute la vie terrestre de Jésus dans son ministère. C'est à ce moment où sur la croix, convaincu qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, humainement, il n'arrive plus à saisir ce qui se passe et il s'écrie. Lui qui savait le sens de toute chose, il comprenait sa mission et savait où il s'en allait, il va quand même crier « Pourquoi? Père, pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et lorsque l'Esprit le ressuscite d'entre les morts, il y a une célébration, il y a quelque chose qui change dans la vision que le Père a du Fils. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un regard nouveau. Cette semaine, j'étais là puis je cherchais des parallèles que je pourrais vous donner. Puis je voudrais pas jouer dans des blessures, des choses de certaines personnes, mais suivez-moi un peu avec ça. Pour ceux d'entre nous qui ont ce privilège d'être mariés et ce deuxième privilège-là d'être papa, puis là, je parle aux gars. Au jour de nos noces, lorsque j'ai vu Esther descendre l'allée, c'était la plus belle femme du monde. Encore hier soir, on était dans un petit événement, puis lorsqu'on est arrivé à la maison, j'ai dit, je te regardais ce soir, tu étais vraiment belle. Vraiment belle. Une rose parmi les épines. Mais le jour où on est allé, il y avait plein de jeunes filles, mais la plus belle, je l'avais déjà. Le jour où on est allé pour une première échographie et que j'ai vu la petite bébite qui allait devenir notre belle jeune fille, avec un cœur qui battait dans le ventre de mon épouse. Esther est devenue quelque chose d'autre à mes yeux. C'était la même femme. Elle est devenue quelque chose d'autre à mes yeux. Peut-être un jour, je vais avoir l'occasion que mes enfants, que j'aime à mourir, je donnerai ma vie n'importe quand pour eux. Peut-être que je vais avoir le privilège un jour qu'ils déposent dans mes bras mes petits-enfants. Ils vont devenir quelque chose d'autre à mes yeux. Ce n'est pas que je les aime moins maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui change dans ce rapport-là. Et au jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette vision que Dieu le Père avait de son Fils, qui a conduit Christ à dire « Maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été confié. Au jour de sa résurrection, il y a eu une gloire, une autorité qui a été donnée à Dieu le Fils comme il ne l'avait jamais eue. » Et on a plein d'indices dans la lettre de Paul de ça. Je vous en donne. Romains 1:1. Paul fait quelque chose de... Je vais le dire comme ça. Pour un juif qui ne croyait pas que Jésus était le Messie, Paul blasphème dans le premier verset, dans les 5 premiers mots de sa lettre. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le mot grec qui est là est beaucoup plus fort que serviteur. Je ne sais pas si les traducteurs avaient peur qu'on prenne offense de ça. Le mot qui est là, c'est doulos. Paul, esclave de Jésus-Christ. Parce que la vision d'un serviteur, c'était celui qui ne s'appartient plus, qui vit pour l'accomplissement de son maître. Cette vision-là de Dieu pour un croyant est constamment présente dans l'Ancien Testament. Israël, le peuple d'Israël, avait été racheté de son esclavage en Égypte. Et tout le peuple d'Israël avait été invité à devenir quoi? Des serviteurs de l'Éternel, du Dieu très saint, du Dieu rédempteur qui les avait sauvés. Et donc, Israël se voyait comme un peuple de serviteurs de Dieu. Et c'était leur plus grande gloire de porter le nom de Dieu. Ce que Paul déclare ici, définitivement, Paul aurait dit, « Je suis serviteur de Dieu. » Mais Paul dit ici, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et n'importe quel juif comprenait très, très bien qu'il était en train de dire être serviteur de Jésus-Christ, c'est être serviteur de Dieu. Paul va plus loin que ça encore lorsqu'on arrive à la toute fin du verset 4, il dit « Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce qualificatif-là de Seigneur, de qui règne, qui a tout droit de souverain. C'est un qualificatif qui était utilisé essentiellement pour Dieu, pour Yahvé. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il a été élevé par le Père. Dieu a agréé son sacrifice sur la croix et Jésus est entré dans un statut, dans une autorité, dans une gloire qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et cette gloire-là venait du fait qu'il avait obéi jusqu'à la mort de la croix. Il s'était livré lui-même en sacrifice afin de racheter un peuple, de racheter des fils et des filles qu'il allait amener avec lui dans la gloire. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit l'Apocalypse, j'ai tellement hâte de voir l'Apocalypse avec vous, lorsqu'on lit l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on trouve au centre, sur le trône? Qu'est-ce qui est là? Encore une fois, c'est l'agneau immolé qui est là. Parce que Dieu, qui est Dieu, qui ne partage pas sa gloire avec personne d'autre que Dieu, a dit, « Toi, mon fils, Dieu le Fils, je te confie tout maintenant. » Déjà beaucoup plus tôt dans son ministère, Dieu avait exprimé cela lorsqu'il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et saisir l'Évangile, comprendre la bonne nouvelle de Dieu, c'est en venir à aimer Jésus-Christ comme Dieu l'aime. C'est en venir à reconnaître qu'il est non seulement celui qui est mort sur la croix, mais il est celui qui est ressuscité et celui qui a toute autorité maintenant. Alors, je ne sais pas, des fois, lorsque tu viens ici, tu écoutes les chants, puis on est toujours en train de parler de Jésus, puis élever Jésus, puis oui, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de Dieu? On parle de Dieu. On parle de celui qui a autorité de vie et de mort sur chacun des souffles de ta vie, celui qui tient les clés dans ses mains de ton éternité, celui qui commande et tous les éléments de la création obéissent à son commandement, celui qui tient dans ses mains le livre de vie, celui qui décide parfaitement de notre destinée. Et moi, j'ai ce privilège extraordinaire de pouvoir dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. J'ai le privilège extraordinaire de pouvoir dire que je suis un serviteur de Jésus-Christ, un esclave de Jésus-Christ, parce que j'ai connu qu'il était la bonne nouvelle de Dieu. Je ne sais pas si tu peux dire ça. Quand tu fermes les yeux puis tu parles la lettre qui est là quelque part, est-ce que tu peux dire ça? Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Je prie pour que tu puisses dire ça. Je vous donne un devoir pratique cette semaine. J'aimerais ça vous encourager. Une recommandation, que je vous fais une suggestion. Toute la semaine, quand vous allez prier, commencez comme ça. Et commencez vos journées comme ça. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je veux te servir. Aujourd'hui, je suis ton serviteur, ton esclave. Mon plus grand bonheur aujourd'hui, ça va être de t'honorer, de t'obéir, de te servir. Seigneur Jésus, je sais que c'est toi qui es la bonne nouvelle de Dieu pour moi. Ma plus grande gloire aujourd'hui, ce serait de pouvoir parler de toi et de pouvoir me coucher ce soir en disant, je t'ai ressemblé aujourd'hui. Je t'ai ressemblé par ma vie. Et je vous encourage, chaque fois que vous allez prier cette semaine, commencez en vous adressant au Seigneur Jésus-Christ. Essayez ça cette semaine. Vous m'en donnerez des nouvelles. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et tant que je ne saisis pas l'Évangile, tant que je ne saisis pas cette bonne nouvelle-là, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas la justice de Dieu. Verset 16-17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'Évangile, dans cette bonne nouvelle-là, est révélée la justice de Dieu. » Un des grands conflits moraux que les êtres humains ont avec la personne de Dieu, c'est quoi? Dieu n'est pas juste parce que si Dieu était juste, il interviendrait puis on ne verrait pas autant d'injustice dans le monde. Une vision de Dieu. L'autre vision de Dieu, c'est non, Dieu est juste et un jour, Dieu va demander des comptes à tout le monde. La justice de Dieu va intervenir dans l'histoire humaine. C'est vrai. C'est vrai. Et généralement, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on lit la justice de Dieu, la justice de l'Éternel, généralement, c'est cette idée-là que Dieu juge les hommes avec justice. Dieu intervient dans l'histoire de l'humanité, dans la destinée des hommes. Dieu juge les nations avec justice. Maintenant, ce que l'apôtre Paul me dit ici au verset 16, au verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. » Et là, ici, Paul est en train d'amener quelque chose d'autre ici. Il est en train de nous amener ailleurs. Parce que le grand conflit moral que l'être humain a à l'égard de Dieu, c'est quoi? Tu me parles d'un Dieu juste, d'un Dieu bon, d'un Dieu qui aime. Tu me dis qu'il va demander à tout le monde de rendre des comptes. Tu me dis qu'il va juger le monde, je ne le vois pas intervenir. Mais tu me dis que lorsqu'il va le faire, il va juger sévèrement. Et il va demander à rendre des comptes éternellement. Ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que si tu ne saisis pas l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas vraiment la justice de Dieu. Soit que tu vas rester avec une vision de Dieu qu'il est injuste, ou soit que tu vas rester avec une vision de Dieu qu'il est un être exigeant qui n'en laissera pas passer une. Mais tu n'auras pas encore vraiment connu la justice de Dieu. Parce que Dieu est à la fois saint et bon. Dieu est à la fois juste et grâce. Et ce que Paul nous dit ici, c'est que pour connaître la justice de Dieu, j'ai besoin de connaître l'Évangile. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui me fait vraiment connaître la justice de Dieu. Quand vous jasez avec des gens puis ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas vraiment la Bible, puis ils ont cette vision-là d'un Dieu sévère, ils disent « Oui, j'ai lu l'Ancien Testament, je sais c'est quoi la justice de Dieu. Je sais comment Dieu juge les péchés des hommes. » Tant et aussi longtemps, et c'est vraiment quelque chose à répéter, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas saisi l'Évangile de Jésus-Christ, tu n'auras pas compris la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est l'expression de sa compassion, de son amour pour un monde injuste. C'est l'œuvre à la croix accomplie dans la mort et la résurrection de Jésus afin qu'un Dieu juste puisse rétablir une relation avec un monde injuste. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est cette puissance de Dieu qui fait que toi et moi, qui sommes des êtres fourbes, je veux dire aujourd'hui, toute la culture occidentale célèbre de bien des manières. Le mensonge, la noirceur. Suivez les téléséries, suivez Netflix, suivez tout ce qui nous passionne dans la culture, dans les arts. Il y a cette gloire du mal en nous. C'est comme ce qui est plus fascinant, ce qu'il y a de plus fascinant dans l'être humain. C'est à quel point il peut être bon, mais en même temps, il peut être tellement wicked, tordu. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui me dit que ce Dieu-là qui est totalement étranger à ça, parce qu'il est parfaitement juste. Comment ce Dieu-là peut-il te prendre toi et te dire aujourd'hui à mes yeux, tu es juste. Tu as été justifié. Tant et aussi longtemps que je ne saisis pas l'Évangile, je ne connais pas la justice de Dieu. Parce que sa justice, c'est aussi l'expression de sa grâce et de son amour. De cette justification qui m'est offerte en Jésus-Christ. Et c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'un injuste comme toi puis moi peut être déclaré juste aux yeux de Dieu par la foi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous invités à croire. Il n'y a personne qui est trop loin de Dieu, trop enfoncé dans le mal, trop tordu, trop sombre, pour ne pas être invité à recevoir cette bonne nouvelle-là. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de vos performances. C'est simplement par l'obéissance de la foi. C'est simplement en croyant. Voyez-vous, ma traduction rend la dernière phrase, « Le juste vivra par la foi ». Il y a toutes sortes de discussions chez les théologiens sur est-ce que c'est la bonne manière de rendre les mots grecs qui sont là. Personnellement, comme beaucoup de théologiens, je crois que c'est plus juste de dire « Le juste par la foi vivra ». Le juste par la foi vivra. Parce que c'est ça que Paul va développer à travers toute la lettre aux Romains. C'est que c'est par un pur acte de foi que nous sommes déclarés justes et que la vie commence en nous. Et Paul avait sur son cœur d'annoncer cet évangile-là à tout le monde. Alors c'est ça que j'ai à vous dire ce matin, si vous êtes chrétien, l'évangile c'est l'objet de notre plus grande fierté. Ça fait 2000 ans que les chrétiens annoncent l'évangile au petit peuple, à la plèbe, aux gens simples qui savent qu'ils ne peuvent pas tout réussir par eux-mêmes, aux élites. Paul les appelle les sages et les barbares, les instruits et les ignorants. Il dit, j'ai été appelé à annoncer l'évangile tant aux élites qui, du haut de leur tour d'ivoire, de leur raisonnement fantastique, estiment ne pas avoir besoin de l'évangile. Non, l'évangile est puissant. C'est une puissance de Dieu de laquelle je n'ai aucune honte, qui est capable de renverser tous les faux raisonnements des plus grands, des bien-pensants, et qui est capable d'aller vers les plus petits. Les plus petits qui vivent par eux-mêmes, les gens les plus simples. Paul va encore plus loin que ça. Il dit, l'Évangile, c'est pour les chrétiens aussi. Parce qu'il dit, voici ce que je rêve depuis longtemps de faire. Ce que je rêve depuis longtemps, c'est de me rendre auprès de vous, chrétiens de Rome, et de vous annoncer l'Évangile. Parce que vous avez besoin de quitter les rudiments de l'Évangile et plonger à fond. C'est l'Évangile qui nous transforme. Alors, annoncez-le. Annoncez l'Évangile aux sages, aux instruits, aux intelligents qui vous regardent de haut parce qu'ils ont besoin de cette bonne nouvelle-là. Annoncez l'Évangile aux simples, aux pauvres, à ceux qui, à quelque part, savent qu'ils n'arrivent pas à construire et qui n'ont pas cette confiance-là en eux-mêmes. Annoncez l'Évangile aux chrétiens. Annoncez l'Évangile dans votre maison. Apprenez à annoncer l'Évangile en toutes circonstances, quand ton frère est abattu parce qu'il lutte avec un péché, il vit une dépendance dans sa vie depuis des mois, depuis des années, c'est de l'Évangile dont il a besoin d'entendre parler. Lorsque tu as un conflit avec ton mari, avec ton épouse, c'est de l'Évangile que vous avez besoin d'entendre. Lorsque je vis de l'insécurité parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais réussir à faire avec ma vie, c'est de l'Évangile que j'ai besoin d'entendre parce que j'ai besoin de savoir que je suis un fils de Dieu par grâce, non sur la base de ce que je vais réaliser et accomplir. Lorsque je cherche ce que je veux faire dans la vie, je peux avancer avec cette confiance-là à cause de l'Évangile encore. Et par la grâce de Dieu, ce qu'on va faire ensemble, au cours des 11 prochaines semaines, on va plonger ensemble dans cet évangile, qui est la bonne nouvelle de Dieu. On va apprendre à se raconter l'évangile entre nous et on va apprendre à annoncer l'évangile aux sages et aux ignorants. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, la personne de Jésus-Christ, Seigneur. Depuis 2000 ans, Tu bouleverses les sociétés avec ce message qui n'est pas une inspiration humaine, ce n'est pas un conte, une légende, une vision religieuse pour se donner un sens. C'est ton intervention au Dieu dans l'histoire des hommes pour nous dire qui nous sommes, d'où nous venons et là où nous allons. Pour nous dire que tu veux t'approcher de nous et que tu veux faire de nous tes enfants. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour chaque personne qui fréquente cette assemblée régulièrement ou de temps à autre, Seigneur. Je te prie dans ta grâce au cours des 11 prochaines semaines. Accorde-leur cette grâce, accorde-nous cette grâce, Seigneur, que personne ici ne connaisse pas l'Évangile de Jésus-Christ personnellement. Que d'ici la fin de cette série, Seigneur, chaque personne dans cette salle puisse déclarer haut et fort, Jésus-Christ, mon Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui luttent avec cette compréhension de l'Évangile, qui luttent avec des péchés, des combats, toutes sortes de choses, qui voient le christianisme comme un ensemble de règles à suivre, qui vont au confessionnal chaque soir pour confesser leurs péchés du jour et se mettre en règle pour reprendre le collier le lendemain et essayer de mieux performer dans cette religion à laquelle ils ont adhéré, qu'ils pensent être le christianisme, Seigneur. Viens leur faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette Église qui a besoin d'apprendre à s'accueillir les uns les autres dans toute la beauté de l'Évangile, Seigneur, comme tu nous as accueillis. Cette Église qui a besoin de vivre humblement comme des gens qui s'observent les uns les autres, où on apprend à vivre à la lumière de l'Évangile tous les jours et on accepte, Seigneur, de vivre dans cette communauté où nos vies sont appelées à être des reflets de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour ta résurrection. Merci, ô Dieu, pour ton Évangile. Amen.